I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Sans passion, l'homme n'est qu'une force latente, qu'une possibilité, comme un caillou qui attend le choc du fer pour rendre des étincelles. Éric-Frédéric Amiel. Les hommes passionnés aiment souvent, les femmes passionnées aiment longtemps. Francis de Croisset. Les caractères passionnés n'atteignent le but qu'après l'avoir dépassé. Sophie Swetchin. Et ma préférée, les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu. Sébastien Roch-Nicolas de Champfort. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille avec vous pour la prochaine heure. La prochaine heure qu'on va passer ensemble, tout feu, tout flamme, parce qu'on va parler de la passion. Donc, un être passionné, c'est quoi? Et est-ce qu'un être passionné est plus heureux ou plus torturé? Parce que c'est comme la caractéristique qu'on n'est pas certain, ou peut-être que ça dépend des fois, on ne sait pas finalement. Être passionné, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Comment elle nous aide? Comment elle nous nuit également, la passion? Qu'est-ce qu'on peut dire de la passion amoureuse? Est-ce que la tempérance, elle est plus prônée, plus recherchée que la passion? C'est quoi le regard de la société sur cette caractéristique qui est parfois malmenée et comment on peut l'utiliser à son meilleur? Comment on s'assure de rester dans la passion saine? Pour en discuter cette semaine, nos invités, Éric Pelletier et Frédéric Philippe. Bienvenue à On est tous des humains.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Éric Pelletier, originaire du quartier Saint-Roch à Québec. Le talent s'est mélangé à la passion pour te mener dans les meilleurs architectes du Québec et du Canada. En effet, en 1995, tu cofondes la firme Craft Pelletier Architectes où tu sièges comme architecte patron. Tes réalisations au sein de ce projet-là se démarquent sur les plans provinciaux et internationaux. Le dynamisme et la passion de ton équipe te mènent à fonder en 2009 Éric Pelletier Architecte, qui se fusionnera plus tard avec la firme Lemay, où tu es l'associé principal création. Cette association a d'ailleurs pour avantage premier de t'alléger de nombreuses tâches, pas toutes, mais quand même, pour te vouer à ta passion, la création pure. Tu es la preuve vivante que la passion peut mener plus haut, plus loin, devenir un mode de vie, une façon de la mener et de la gagner également. Merci d'être là.
Merci.
Frédéric Philippe, professeur de psychologie à l'UQAM, directeur du laboratoire Élaboré qui vérifie comment l'intégration de nos souvenirs, l'organisation mentale qu'on en fait, a comme conséquence sur divers comportements futurs dans une multitude de domaines. Pour ton deuxième passage à l'émission, on profite de ton expertise dans la psyché humaine qui implique propriétés, caractéristiques et conséquences de ces dispositions tempéramentales chez les humains, dont fait partie la passion dans divers domaines. Je te souhaite la re-bienvenue ici.
Merci beaucoup.
Merci les gars d'être là. Être passionné, c'est quoi, Frédéric?
Souvent, on va définir la passion avec certains critères. Donc, si vous vous reconnaissez à travers ces critères-là, c'est probablement que vous êtes passionné. Les critères, c'est quoi? On va dire qu'il y a une activité d'abord. Cette activité-là, on l'aime ou on l'adore. On aime ça, on adore la faire. On la trouve très importante dans notre vie. Et on va passer également beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à faire cette activité-là. Donc, on peut être passionné par à peu près n'importe quoi. On peut être passionné par le ski, on peut être passionné pour le travail, on peut être passionné pour le jardinage, on peut être passionné pour à peu près n'importe quelle activité dans nos vies. Il y a des gens qui sont non passionnés, qui n'ont pas d'activité passionnante dans leur vie. Il y a des gens qui en ont juste une, il y en a d'autres qui en ont même deux, trois.
Mmh. Mais là, on parle, parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'à quelque part, quand on parle de passion, on peut parler du trait de caractère, mais on peut parler également d'avoir une passion. Éric, est-ce que l'architecture est une passion ou est-ce que tu te considères comme quelqu'un de passionné qui, entre autres choses, a fini par la donner, la mettre dans l'architecture?
C'est vraiment une bonne question.
Pas pire!
Oui, oui, c'est une très bonne question pour commencer. Je dirais que non, l'architecture, c'est vraiment une passion. C'est une passion qui est arrivée tardivement dans mon cas, mais c'est une passion qui motive beaucoup de choses, beaucoup de choix, beaucoup de sacrifices. Alors, oui, oui, c'est vraiment une passion.
Et comment t'as su que c'était une passion? Comment ça se détermine, ça? C'est malgré toi? C'est...
Malgré moi, au fil des études, tranquillement, on s'approprie une nouvelle profession, un nouveau monde. On découvre le potentiel que ça peut nous amener, comment ça nous touche. Puis tranquillement, ben, ça prend de plus en plus de place, effectivement. Donc, il y a le contrôle de la place que ça prend. Là. En soi, c'est un sujet.
Mm-hmm.
Mais
mm-hmm.
Ça prend de la place. Puis tranquillement, ben, ça nous investit. Plus ça nous investit, ben, plus ça devient une passion. Et puis, ça conditionne plusieurs pans pendant notre vie.
Mm-hmm. Mais au final, caractériellement parlant, avant ça, est-ce que tu étais passionné ou tu te considérais quelqu'un plutôt de tempéré, de modéré?
Oui, quelqu'un de tempéré. Mais j'avais certaines petites passions, comme tout le monde, là, je veux dire, quand on est plus jeune. Mais ça s'est, je crois que ça s'est canalisé à travers l'architecture dans mon cas.
Donc, on peut avoir des passions dans certains domaines sans être quelqu'un de passionné, c'est ce que je comprends.
Bien, en fait, je pense que l'aspect plus la disposition d'être passionné, je pense que ça n'existe pas nécessairement comme tel. Il y a des traits qui vont mettre ça de l'avant, qui vont avancer ça.
Je vais lever la main ici.
Tu veux lever la main? Pourquoi tu veux lever la main?
Parce que je me considère vraiment quelqu'un passionné.
Moi, je pense qu'on parle pas nécessairement de la même chose, par exemple. Peut-être que tu veux dire que tu es quelqu'un qui a une forte motivation, un fort engagement dans tout ce que tu entreprends. Mais quand on parle de passion, de ce que Éric est en train de nous parler, par exemple, une passion pour l'architecture, on parle vraiment d'une correspondance entre une personne
mm-hmm.
et une activité spécifique. Éric peut être passionné pour l'architecture, puis pas en tout pour d'autres choses.
Mm-hmm.
Alors, c'est vraiment la correspondance entre les deux, puis il a vraiment dit quelque chose de très important. Il a dit que ça devient identitaire à un moment donné. Et c'est ça, une passion. Quand tu as une passion pour une activité, ça prend une place dans ton identité. Quelqu'un qui joue de la guitare parce qu'il trouve ça le fun, il dit « je joue de la guitare ». Quelqu'un qui a une passion pour la guitare, il dit « je suis un guitariste ». Exactement.
Oh, wow!
Alors, tu as raison qu'il y a des aspects de personnalité qui amènent les gens plus facilement à se passionner pour des choses. Mais je pense que quand on parle d'une passion pour une activité précise, on parle de cette correspondance-là entre une personne et une activité.
Et tu as dit, Éric, également, autre chose de super intéressant, ça se développe à quelque part, ça se découvre d'une certaine façon. Est-ce que ça s'éteint également, la passion?
J'espère que non. Mais sûrement, j'imagine, peut-être qu'il y a une autre passion à un moment donné qui peut arriver dans la vie d'une personne selon où la vie nous amène.
Uh-huh.
Mais ça se cultive aussi. Je veux dire, si quelqu'un a une véritable passion, c'est quelque chose qu'il va cultiver et entretenir. Et il a fait des choix pour entretenir puis avoir cette passion-là. Je crois que ça peut devenir difficile de la perdre momentanément,
mm-hmm.
mais elle peut probablement s'estomper. On peut perdre un peu le feeling, ce qui fait que nous, on s'avance là-dedans. J'aime beaucoup la comparaison de la guitare. Je vais la retenir, d'ailleurs, si tu me permets.
Mais je pense que des fois, on va voir des passions s'estomper, surtout chez les jeunes. Par exemple, les jeunes qui ont une passion pour un sport, ils se retrouvent avec un coach contrôlant qui vont leur enlever complètement leur motivation à faire cette activité-là. Donc, des fois, ceux qui éteignent la passion, des fois, c'est les autres.
Donc, il y a des facteurs externes qui peuvent malheureusement ternir un petit peu l'enthousiasme qui était là à la base chez quelqu'un. Par contre, on a parlé de la différence entre le côté caractère et le côté activité. Si la personne est passionnée d'emblée, elle peut se trouver quelque chose dans lequel s'investir autre. J'imagine, je le souhaite. Est-ce que les passionnés sont plus heureux ou sont plus torturés? Parce qu'on parle souvent d'un passionné qui est too much.
Ouais, ben c'est une différence super importante que tu dis là, Emmanuel. Dans la littérature, on trouve qu'il y a deux types de passions. il y a la passion qu'on appelle la passion harmonieuse, puis il y a la passion obsessive. Alors, dans les deux cas, les gens sont très passionnés pour leur activité, ils adorent leur activité, c'est important, ça occupe une place dans leur identité, sauf qu'ils ne vivent pas leur passion de la même façon. Dans le cas de la passion harmonieuse, l'activité qui est passionnante est toute intégrée dans leur vie. Elle est cohérente avec les autres aspects de qui ils sont, leurs valeurs, les autres choses qu'ils font dans leur vie. Ça ne crée pas de conflit entre leur activité et leurs autres sphères importantes de vie. Dans le cas de la passion obsessive, on voit que ça accroche. Alors, par exemple, ça, c'est les gens qui vont être très passionnés, par exemple, pour le travail, mais qui vont laisser tomber d'autres aspects importants de leur vie. Par exemple, la famille, ça, c'est classique. Hein? Et là, ça crée des conflits. Là, ça crée des problèmes. Donc là, la passion, au lieu de construire des choses dans une vie, elle vient à être nocive, à détruire d'autres choses en parallèle.
Mais tu peux pas passer d'un côté à l'autre? Selon des étapes de ta vie ou selon des moments où tu peux passer de l'harmonie à du côté nocif, parce qu'il y a un balancement qui peut se faire à certains moments donnés aussi.
Oui, tout à fait. Puis on voit ça. Puis des fois, c'est des contextes hein, qui vont nous amener à être un petit peu plus obsessifs, puis d'autres fois un petit peu plus harmonieux. Puis il y a des fois des gens qui sont les deux en même temps. Et là, c'est des aspects de l'activité qui vont éveiller un petit peu plus la passion obsessive, puis d'autres fois un petit peu plus la passion harmonieuse.
On en parle des limites saines dans quelques instants. On parle de passion, on voit qu'il y a des limites pas claires, Elles peuvent être claires, mais elles peuvent dépendre de chacun et elles sont pas toujours respectées. Frédéric, tu parlais de cette notion-là où la passion peut parfois déborder en obsession.
Oui, ben, quand on parle de passion obsessive, c'est l'activité qu'on pratique. On a de la misère à contrôler son désir de faire l'activité. Alors, donc, on la fait à des moments où est-ce qu'on ne devrait pas la faire. Hein? Donc, peut-être pour donner un exemple, on peut penser à quelqu'un qui a une passion pour le basketball, on va dire. Mais il va absolument, il va falloir qu'il fasse son activité à des moments où est-ce que ça n'a peut-être pas rapport à la faire. Au lieu de s'occuper de ses enfants, hein, il va peut-être annuler des activités avec ses enfants pour que lui puisse aller faire son activité. Alors, on voit là qu'il y a des conflits qui se créent ici entre famille puis une passion. Mais ça peut être toutes sortes de conflits. Possible comme ça. Mais on voit que l'activité, à un moment donné, prend trop de place, puis la personne a de la misère à réguler les moments où est-ce qu'elle devrait faire l'activité, puis pas faire l'activité, ou arrêter de la faire, hein, prendre des pauses, par exemple, prendre mm-hmm. des vacances. Prendre... Mm-hmm. Alors ça, on voit moins ces possibilités-là dans la... quand quelqu'un a une passion obsessive.
Mm-hmm. On parle qu'il y a des conflits, on parle des obsessions, on parle entre autres, puis on en parlait hors micro de cette idée-là où, par exemple, si on a une passion pour le jeu, on peut s'empêcher de dormir, à passer à côté des besoins vitaux, mais à ce moment-là, c'est beaucoup plus une addiction qu'une passion, on va se le dire. Éric, comment tu fais pour t'arrêter à un moment sain? As-tu des indices qui disent « là, je déborde »?
Ah, ben il y en a souvent. Là, je sais, des indices qui débordent, c'est le premier indice, je crois que c'est la fatigue.
Okay.
C'est la fatigue ou l'impression de ne plus voir clair ou d'avoir l'impression qu'on en a trop sur les épaules. Puis là, à ce moment-là, on se dit « bon, okay, j'en ai peut-être, évidemment, peut-être trop pris ». Pour moi, c'est le premier indice. Puis de voir que j'ai plus le goût de me dépasser autant. Ça, mm-hmm. c'est le deuxième indice. C'est
perdre d'intérêt.
Se contenter de moins. Donc, dès qu'on se contente de moins, on baisse un peu nos gardes, puis on se dit, bon, c'est correct ce qu'on fait. Je veux dire, dans notre métier, on essaie de viser toujours plus haut, faire mieux, faire de meilleurs projets, réaliser de meilleures choses pour les gens.
Mm-hmm.
Et à la minute qu'on baisse un peu la garde, c'est l'indicateur pour moi que soit on rentre dans une zone où on a débordé un peu nos limites, ou on s'est épuisé, ou on effrite notre passion. Et mm-hmm. là, je pense qu'il faut prendre une pause pour dire, OK, puis se re-questionner et revenir après.
Mm-hmm. Frédéric, je te cite. Dans le cas d'une passion obsessive, l'activité est pratiquée à la fois parce que l'activité est considérée comme intéressante, mais aussi pour jouer un rôle compensatoire dans la vie de la personne. L'activité est pratiquée pour pallier à une plus faible estime de soi, pour combler un manque affectif, ou pour satisfaire des besoins psychologiques qui ne peuvent être comblés ailleurs. Sans faire de jeu de mots avec ton laboratoire, pourrais-tu élaborer?
Bien sûr, je vais élaborer sur la question. En fait, c'est pas tout ça nécessairement. Donc mm-hmm. ça, c'est des exemples.
Mais
donc,
c'est
ça
super
peut...
intéressant. C'est pas des Exactement. Choses qu'on se doute, là.
C'est pas parce que quelqu'un a une passion obsessive qui va nécessairement compenser une faible estime de soi. Mais c'est une possibilité. Donc souvent, les gens vont s'engager comme ça, sans arrêt, dans une passion. Puis à un moment donné, c'est comme si l'activité prenait le contrôle sur eux, hein. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est compensatoire dans cette activité-là. Ils vont rechercher quelque chose que l'activité leur apporte, qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher ailleurs dans leur vie. C'est pour ça que l'activité prend autant de place à un moment donné.
C'est quoi ça? Ça veut dire que nécessairement, quand on fait une passion, c'est parce qu'on se sent bon, donc ça remplit quelque chose sur le plan de la compétence personnelle?
Bien, c'est normal de faire une activité pour s'accomplir, par exemple. Sauf que si tu fais l'activité parce que c'est la seule chose dans ta vie qui t'amène ce sentiment-là de compétence, par exemple, si tu parles de compétence, ben c'est sûr que cette activité-là, à un moment donné, elle va prendre trop de place. À chaque fois, tu vas te sentir un peu plus fatigué ou down, des fois, comme on dit.
Comme Eric nommé,
ben là, tu vas te relancer dans cette passion, dans cette passion-là. Ce qu'Éric disait, c'est plus que quand il fait trop son activité, il a besoin de prendre des pauses. Puis ça, je pense que c'est relativement sain. Ouais. De faire ça.
Oui. De savoir s'arrêter, mais bon.
Oui, ça, c'est toujours difficile, mais je suis obligé de t'y donner raison, malheureusement.
Mm-hmm.
Parce que là, tantôt, on parlait de la raison, comment la passion se développe. Puis,
mm-hmm.
Ben oui, c'est vrai que je prends mon cas, là, je faisais la passion en architecture, ça s'est développé plus à l'université. Puis j'étais quelqu'un à la base qui n'avait pas beaucoup confiance en lui, puis ça m'a donné confiance. Ça m'a donné une certaine confiance. Dans certaines sphères, ça m'a donné de la confiance. probablement parce que j'avais réussi à exceller puis à découvrir quelque chose qui me passionnait vraiment. Et ça a probablement comblé cette lacune-là.
Mais c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que tu étais bon dès le départ? C'est, humblement, là, la vérité, là.
Non, pas les premières années. Il y a un déclic qui s'est fait à un moment donné, après une première année, une deuxième année, où qu'est-ce que ça pouvait m'apporter et qu'est-ce que je pouvais trouver dans l'architecture, puis qu'est-ce que ça pouvait apporter à d'autres personnes autour de moi. Et c'est à ce moment-là que les choses se sont replacées et que la profession est devenue de plus en plus grande. On s'est investi un peu plus dans les études, mais après dans ce qui va suivre. Alors oui, c'est graduel, c'est toujours graduel. En tout cas, dans mon cas, ça a toujours été graduel. Mais ça l'a comblé, effectivement, dans la première année, un manque de confiance.
Est-ce qu'on peut avoir une passion dans laquelle on n'est pas bon?
Ben, je pense que ça parle un petit peu de nos capacités. Ben, c'est qu'on va toujours s'améliorer. Plus on fait quelque chose, plus on s'améliore. Et les gens aiment beaucoup parler du talent inné. Mais quand on regarde les experts internationaux dans des choses, on voit qu'ils ont développé leur expertise pas par talent inné, mais par la pratique délibérée qu'ils ont mis dans leur activité. Pour devenir un expert dans beaucoup, beaucoup de domaines, ça prend à peu près 10 000 heures de pratique. Donc, 10 000 heures, c'est à peu près 10 ans. À peu près 20-25 heures semaine de mettre dans une activité. Donc, ça, on parle d'experts internationaux, de ceux qui vont gagner des concours internationaux, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on les gens qui développent une passion, ben ils ont cette capacité-là de mettre ce nombre d'heures-là dans leur activité. Alors, on voit souvent des experts internationaux qui sont évidemment des passionnés. Je pense qu'Éric en est un. Là.
Mais d'abord, oui, vas-y.
Ben, c'est parce que dans mon cas, c'est facile, c'est mon travail. Alors, le nombre d'heures, c'est incalculable, je pourrais dire. Là. À certaines périodes de ma vie, on comptait plus les heures qu'on travaillait que les heures qu'on était en dehors du bureau. Là. Mm-hmm. Mais oui, je pense que le nombre d'heures qu'on investit dans quelque chose nous permet, de prendre une zone de contrôle ou de certains conforts. Mais je crois qu'il faut quand même, après, lorsqu'on l'a atteint, se dire, OK, ben faut faire un step up encore, parce qu'on ne peut pas rester juste à ce niveau-là. C'est là la notion du défi, on en parlait en début d'émission, c'est la notion du défi. Est-ce que je reste au niveau de mes 10 000 heures, puis de ma connaissance de 10 000 heures, ou je monte encore un petit peu plus haut par la suite, pour assouvir encore cette passion-là, de dire, ben ça peut m'amener encore plus loin ou ailleurs.
Mm-hmm. Mais tu as nommé tout à l'heure, Éric, que tu te considérais comme quelqu'un avec un tempérament, une personnalité plutôt modérée, mm-hmm. et que l'architecture correspondait à une passion. Est-ce que tu crois qu'au niveau social, sociétal, les gens te voient comme un passionné ou comme un architecte de talent à ce moment-là?
Ah, là, c'est la bonne question. Je peux pas répondre. Je sais pas. Je sais pas comment les gens voient. Sûrement un architecte de talent, ceux qui ne me connaissent pas. Mm-hmm. Puis ceux qui me connaissent savent comment c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis comment ça a modulé certains aspects de ma vie. C'est sûr et certain. Ils voient les efforts, les sacrifices qui ont été faits pour arriver à la personne que je suis aujourd'hui. Puis avec les gens autour de moi avec qui nous aident à accomplir nos projets. Mais effectivement, ils doivent avoir, dépendamment de la personne qui nous regarde, si elle nous connaît ou pas, ils voient certains points de notre vie qui sont totalement différents.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ben, effectivement, et au niveau social, justement, parce que moi, je reviens à ce tempérament-là, des gens qui sont passionnés. Des fois, j'ai l'impression que c'est un petit peu mal vu d'être passionné. C'est des gens qui sont fous. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Mais la question, ce qui est étonnant quand on est plus passionné, c'est mm-hmm. de travailler avec des gens qui n'ont pas la passion, pas du tout la passion. Alors ça, c'est turn-off, là, excuse l'anglicisme, oui. Mais c'est vraiment turn-off. Et c'est quelque chose qui, à la longue, finit par nuire même à sa propre passion, parce que si on est entouré de gens qui n'ont pas la passion, qui ne nous allument pas ou qui ne nous drive pas, ben tranquillement, on abaisse cette flamme-là, puis on l'abaisse, puis on l'abaisse, puis on l'abaisse. Puis là, il faut la rallumer à un moment donné. On est obligé de la rallumer.
On va voir ce qu'on peut leur dire à ces gens-là dans quelques instants. Restez avec nous.
Your friends, 'cause baby, you got a long road ahead full of troubles. Consider this a warning, ain't gonna
On est tous des humains se poursuit sur le canal M. Emmanuel Robitaille avec vous qui parle toujours de passion avec nos invités. Cette semaine, Frédéric Philippe et Éric Pelletier.
Pour avouer,
de fierté pour avouer,
les sentiments il faut pas jouer,
les sentiments
ils te font douter, arrête de dire qu'ils te dégoûtent.
Ah,
ma copine, raisonne-toi, arrête tes sottises, tes sottises pour parler d'amour, pas besoin de sous-titres. Je te vois, tu soupires, laisse-le partir, je suis là au pire. Les femmes te disent c'est l'homme le fautif. Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément. Pas du tout,
pas du tout,
pas du tout,
pas du tout.
Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément. Pas du tout,
pas du tout,
pas du tout. French kiss. Certaines choses qu'il faut pas goûter. Arrête de dire qu'elle te dégoûte. Ah mon gars va, tes frérots sont là, t'inquiète pas, ça va. Comment ça, comment ça? Oublie là, tu peux tout recommencer. Une de perdue, 10 de retrouver. Toi tu veux retrouver celle que t'as perdue. Bah ouais, quand cœur est brisé, tous les hommes ne font que dramatiser. Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément. Pas du tout. Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément. Pas du tout,
pas du tout,
pas du tout. French kiss. Sûr de toi, tu sais pas ce que tu veux, toi. Tu le veux sous le même toit, tu la veux sous le même toit. En amour, suffit pas d'y croire. Tu vis dans le doute et l'espoir. Quand t'es seul face à ton miroir, tu te refais l'histoire. Mais tu l'aimes,
tu l'aimes, tu l'aimes.
Ah, tu l'aimes,
tu l'aimes,
tu l'aimes. Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément. À la folie, un peu beaucoup, passionnément. Pas du tout,
pas du tout,
pas du tout. French kiss.
La passion. On parle de passion en termes de passion, avoir une passion. On parle de passion en termes de caractère, mais il y a des domaines particuliers où la passion peut créer des questionnements, des désaccords, des réflexions du moins, à commencer par la passion amoureuse. Ça résonne quoi pour vous, la passion amoureuse, Frédéric?
La passion amoureuse, c'est un petit peu la même chose. Vous allez me trouver plate, hein? Vous allez me trouver très cérébral pour parler de la passion amoureuse, mais c'est un petit peu la même chose que les autres activités. On peut être passionné pour son partenaire ou sa partenaire de façon harmonieuse ou obsessive aussi. Dans le cas de la passion harmonieuse, c'est que le partenaire, il remplit quelque chose dans notre vie. Ah, puis là aussi, c'est cohérent avec qui on est. Puis cette personne-là nous permet de se construire puis de construire ensemble quelque chose dans la vie. Ça donne un sens à la vie. Dans le cas d'une passion obsessive pour le partenaire est absolument nécessaire. On est inquiet que le partenaire quitte. Le partenaire doit rester là. On pense juste à notre partenaire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le partenaire devient un petit peu compensatoire de certains aspects dans notre vie.
Mais c'est super intéressant ce que tu dis. En fait, j'avais tellement le goût que tu le dises. Parce que ma question est la suivante, dans la mesure où est-ce qu'à un moment donné, la passion, le mot passion dans le contexte amoureux, serait pas un petit peu mélangé avec d'autres termes comme la possession, l'obsession, la jalousie, voire la dépendance? C'est, ouais. C'est pas la même chose.
Non, c'est ça. Ben, dans le cas d'une passion obsessive un petit peu pour son partenaire, ça ressemble quand même à une certaine forme de dépendance, effectivement.
C'est, pour moi, ça sonne plus dépendance.
Puis il va avoir plus de jalousie, effectivement, qui va être vécue. La jalousie, c'est une émotion qui est vécue selon certains contextes. Mais effectivement, si on a très peur que son partenaire nous quitte, qu'il nous aime pas assez, puis qu'on dépend de notre partenaire, ben c'est sûr que si notre partenaire regarde ailleurs, d'autres personnes, d'autres partenaires alternatifs, la jalousie va arriver pas mal plus vite dans ce temps-là. Si on sent qu'on a une relation très cohérente, bien construite avec notre partenaire,
par
si il regarde ailleurs, ça ne fait pas tant que ça.
Par l'investissement de temps, par l'investissement qu'on y accorde.
Quand je te disais construit, c'est
ben,
ça?
Quand on parle de jalousie qui arrive nécessairement plus rapidement avec une passion à cause du temps, de l'investissement général?
Non, en fait, plus par les inquiétudes qu'il y a derrière cette passion-là. Quand on a une passion obsessive pour son partenaire, ben justement, il y a une certaine insécurité par rapport au partenaire. Et donc, on pourrait penser que le partenaire pourrait aussi quitter puis aller avec quelqu'un d'autre, d'où l'expérience de la jalousie.
Donc, Eric, est-ce que le fait que tu sois passionné de ton travail t'amène à être plus inquiet de le perdre? On jase.
Par rapport au travail? Ou
ben non, mais si je continue dans la lignée que Frédéric nomme, si on a une passion...
Non, je pense que par rapport au travail, c'est une passion harmonieuse. Là. Je veux dire, non, je ne penserais pas perdre mon travail, puis même, je vois pas pourquoi...
Il n'y a pas d'inquiétude supplémentaire.
J'aurais plus peur de perdre ma passion en soi, là, c'est de perdre que ça s'éteigne tranquillement, puis que...
Que
je me lève
feu.
Le matin pour aller travailler seulement. Pour aller jouer de la guitare.
plutôt qu'être guitariste.
Tu peux pas passer, par exemple, d'une activité à l'autre ou d'une sphère de vie à l'autre. Alors, si on parle de la passion amoureuse, les conséquences de la passion amoureuse sont pas nécessairement les mêmes que pour la passion au travail, par exemple. Donc, si dans la passion obsessive, tu as peur de perdre ton partenaire, ça veut pas dire que tu vas avoir peur de perdre ton travail, nécessairement.
Et est-ce qu'il existe une passion amoureuse saine? Parce que je me dis, quelqu'un qui est passionné d'emblée, qui est passionné dans le sport, qui est passionné en musique, et quand il aime quelque chose, il aime quelque chose. Moi, j'aime un film, j'aime une musique. Est-ce nécessairement cette personne-là ne pourra pas changer de caractéristique ou de personnalité en amour? Est-ce qu'elle peut vivre sa passion dans l'amour sainement à ce moment-là?
Oui, bien, tout à fait. Puis c'est un peu comme pour la passion envers une activité. C'est une correspondance entre une personne puis un partenaire, la passion amoureuse. Hein. On peut être passionné...
On n'est pas tout seul.
On n'est pas tout seul. Ben non, Emmanuel,
ben,
on n'est pas tout seul.
Bon,
une autre qui fait une découverte.
On a un apprenti des affaires.
Et donc, tu peux être passionné de façon amoureuse avec un partenaire, puis si jamais à un moment donné, tu développes une autre relation avec quelqu'un d'autre dans ta vie, ça se peut que cette passion-là soit vraiment pas aussi forte. C'est vraiment la correspondance entre les deux qui définit une passion.
Mm-hmm.
C'est vrai pour des activités comme le sport, le travail, mais c'est vrai aussi pour des relations amoureuses.
Je te parle de passion au travail, Eric, parce que j'ai lu quelque part, et il semble que les critères d'embauche changent avec les années. Tu t'occupes d'embaucher des architectes, des gens qui vont faire partie de la boîte. En quoi la passion ou quelle place la passion prend quand tu regardes un CV ou quand tu passes quelqu'un en entrevue?
Dans mon cas, là, si j'embauchais quelqu'un dans le département ou dans le volet dans lequel moi je m'occupe, qui est plus le volet vraiment de la conception, c'est sûr que c'est inévitable. Il faut avoir des gens qui sont très passionnés.
Ça devient, parce que c'est vraiment, inévitable. Les études le disent, là, c'est rendu un critère indéniable.
Oui. Mais c'est pas une question qui se pose, est-ce que tu es passionné par ton métier? Ben oui, je suis passionné, c'est sûr et certain que les gens vont répondre ça. Mais ça se voit par la discussion qu'on a ensemble, ça se voit par les références. Est-ce que les gens vont juste à Cayo Coco faire des voyages, ou une fois de temps en temps, ben, ils vont à Los Angeles, ils vont à Paris, ils vont à Rome pour voir un peu d'architecture, est-ce qu'ils vont à des conférences. On le voit dans la façon qu'ils vont nous parler de la profession. On le voit dans la façon qu'ils vont parler de l'architecture. Là, on comprend qu'il y a quelque chose d'autre derrière. On voit que ce sont des guitaristes. Alors, c'est là la nuance. Alors, idéalement, bon, on cherche des guitaristes. On mm-hmm. cherche des gens qui ont ça en eux et qui vivent aussi à travers l'architecture dans notre cas.
Compétence versus passion.
Passion.
Passion passe par-dessus.
Passion, parce que la personne qui est vraiment passionnée va finir par développer sa compétence et va être ouverte à côtoyer des gens qui ont une passion puis probablement de plus grandes compétences, mais va vouloir apprendre. Alors, il y a des gens, des fois, les plus jeunes qui arrivent, puis ils sortent de l'université, ils ont des beaux portfolios, mais ils sont candides, ils me disent « j'ai pas l'expérience, mais j'aimerais ça apprendre, puis je veux apprendre », et ça se voit dans leurs yeux, ils veulent apprendre. Alors, ça les intéresse, ils sont passionnés. Parfois, c'est plus facile avec eux.
Dans les employés avec lesquels tu travailles, est-ce que tu remarques justement différents types de passionnés? Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce qu'il y en a qui seraient justement plus harmonieux, obsessifs, puis... C'est comment tu dirais que c'est quoi les conséquences? Comment est-ce que ces employés-là travaillent? Est-ce qu'ils travaillent différemment?
Oui, totalement. Il y a des gens qui sont... Généralement, les gens sont plus harmonieux par rapport... Je regarde dans le milieu de travail, là, c'est sûr et certain, parce qu'on doit s'investir quand même. C'est une profession qui demande beaucoup. Émotivement aussi, c'est une profession qui demande énormément. Et si on s'investit, alors les gens sont généralement plus harmonieux. J'ai pas eu à côtoyer des gens qui avaient une passion. Très, très obsessif, là, puis avec des problèmes. Là-dessus, non. On vit bien là-dedans, j'espère.
On parle d'harmonie et de passion dans quelques instants.
Starts to swing. You were born to sing.
Est-ce que la passion, on a parlé de plusieurs termes, plusieurs façons d'aborder la passion, est-ce que la passion est compatible avec la paix intérieure?
Moi, je dirais que oui, mais seulement si elle est harmonieuse. Dans le cas de la passion obsessive, on est toujours pris, on sent que l'activité nous domine un petit peu, nous contrôle. Hein? Donc, on se sent toujours amené à... Hein, on sent une pression à faire l'activité. Donc, la paix intérieure est difficile à ce moment-là.
Mais quand même, paix intérieure est synonyme de calme, de sérénité. Est-ce que tu es capable d'être calme et serein quand tu es dans ton activité passionnée?
Oui, 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 je suis capable de prendre des moments où, quand on fait de la conception, des fois, il faut des moments un peu de recul, puis même dans l'atelier, il faut se sortir puis se cacher dans un coin, parce que dans mon cas, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un petit peu de moments calmes. Puis la conception, ça peut se faire assis sur le divan à la maison, en réfléchissant et en étant dans notre tête, parce qu'il y a des choses qui vont émerger. Et là, on a besoin de calme, on a besoin de faire le vide, puis ou d'amener notre tête ailleurs, littéralement, pour... laisser notre imagination divaguer. Et ce calme-là, il est requis. En tout cas, nous, en conception, puis je vois en architecture, les meilleurs concepts sortent pas nécessairement autour d'une table à dessin, autour d'une table, mais ça sort autour de discussions qu'on a ensemble.
Et tu le ramènes au moment opportun.
Oui, au projet, puis là, ça va venir, ça va se concrétiser. Mais les bons coups qu'on a eu dans notre carrière, puis qu'on a fait, ont toujours émergé en dehors. Soit du bureau ou en dehors vraiment de la table, c'est-à-dire du moment de travail prévu. Ils ont émergé vraiment de discussions où on s'était mis un peu en porte-à-faux, on s'était reculé et on avait réfléchi.
Donc, on n'est pas obligé d'être dans l'engouement, dans la fougue, dans la profonde action.
Je pense qu'il faut une balance. Parce que c'était pas la balance entre les deux. C'était pas la balance entre ce moment-là où c'est assez intense. Puis le moment dans un projet, ce qui est intéressant en conception, c'est qu'il y a une espèce de point d'inflexion où on est dans le vide, le néant, c'est la feuille blanche, on sait pas qu'est-ce qu'on va faire, on est perdu. Et le projet va venir, il va se mettre à concrétiser. Et lorsque l'idée commence à sortir, ça devient excessivement intéressant. Et là, c'est là que c'est comme un rush d'adrénaline. Parce que là, on se dit, OK, là, on commence à le visualiser. Et après, ben c'est comme une chute tranquille parce que là, il se visualise puis il se concrétise. Mais ça prend, pour y arriver, ça prend quand même un certain moment. C'est inévitable qu'il faut prendre un peu de recul.
Mm-hmm.
Ouais.
Mm-hmm.
C'est ça, dans le fond, tu dirais que cette créativité-là qui est nécessaire, elle naît plus du calme que de la fougue puis de l'énergie, dans le fond.
Oui, oui.
Et après, on prend la fougue pour la mettre en action, pour l'appliquer, pour lui donner vie.
Toute la fougue. Toute la fougue, parce que si on fait un concours, on a besoin de toute notre fougue au complet, la fougue intérieure de tout le monde, puis là, on s'en va au combat, bien, on a le besoin. C'est ce qui fait que si on perd un concours, bien, la passion, là, on tombe dans l'émotion, puis là, on tombe dans la déception et tout, parce qu'on a mis beaucoup de soi, on s'est investi, on s'est commis dans le projet, puis là, bien, on perd un mandat. Bien, là, ça nous fait plus quelque chose que quelqu'un qui s'est moins commis.
Justement, tu m'amènes sur cette définition de la passion que j'ai trouvée et qui va comme suit. La passion est un mouvement violent. Non, mais c'est vraiment quelque chose. Mouvement violent, impétueux de l'être vers ce qu'il désire. Émotion puissante et continue qui domine la raison. Alors, messieurs, est-ce que passion et raison peuvent aller de pair?
Ben moi, je pense que oui, c'est intéressant parce que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu tellement de définitions de la passion. On peut retourner dans le temps des Grecs et tout ça. Puis à chaque fois, on retrouve justement, selon les auteurs, une définition de la passion qui est plus harmonieuse ou obsessive. Quand on dit que la passion, l'énergie, la pulsion domine la raison, on est en train de parler de passion obsessive. T'as plus ta raison, il y a l'activité de contrôle. Mais je pense que dans le cas d'une passion harmonieuse, au contraire, la raison est toujours là puis elle alimente constamment ta passion. Donc, il y a une énergie qui est là, mais il y a une raison... Hein, qui vient constamment orienter de façon adéquate les choix effectués puis tout ça. Dans le cas d'une passion obsessive, c'est là qu'on... C'est vrai, on va voir, par exemple, il va y avoir des prises de risques. Si on a des gens passionnés par la danse, il va y avoir plus de blessures. Les gens passionnés par le vélo, ils vont prendre plus de risques inutiles, vont se blesser. Les sportifs vont tomber plus en burn-out parce qu'ils vont se pousser trop. Et c'est là qu'on voit que l'activité domine la raison. Alors, je pense que... Pour avoir une vraie passion constructive, ça prend l'assemblage des deux. Cette pulsion-là, cette motivation-là très forte et une raison très forte également.
Ben à ce moment-là, Rick, est-ce que c'est la raison parfois qui t'amène à mettre de côté un vendredi soir ta passion?
Oui. Oui.
Ça serait un peu l'outil.
Oui, tout à fait, parce que j'ai appris avec le temps, avec l'âge, il faut croire, qu'on a besoin d'un certain moment de calme après des tempêtes, puis on a besoin de ces moments de calme-là pour renouer avec ces moments d'intensité-là. Il y a un équilibre à avoir entre les deux, et faut apprendre à déconnecter. Il faut littéralement apprendre à déconnecter. Ça ne veut pas dire que en me couchant, que je ne me mettrai pas à penser au projet. Au contraire. Mais ça m'appartient, puis je ne suis pas obligé de le partager. Je suis avec moi-même. Mais ces moments-là sont requis. Ils sont absolument requis. Ils font la balance de la dose d'adrénaline qu'un projet va t'amener. Ils sont requis. Puis plus ils sont requis, mieux on performe un peu plus après, parce qu'on a pris ce temps-là. Moi, je trouve que du calme émerge plus facilement de bonnes idées.
Tantôt tu as dit quelque chose d'assez intéressant, dans la mesure où quand tu es quelqu'un de passionné, les gens qui n'ont pas de passion autour de toi, ça vient te chercher. Ça vient te chercher dans tes valeurs, c'est comme ça que tu mènes ta vie. Est-ce que tu dirais que c'est plus facile d'aller transférer ou transmettre ta passion à quelqu'un qui n'en a pas, ou est-ce que c'est plus facile de se faire amener vers le bas ou de se faire désabuser, désillusionner par les gens sans passion?
Je pense que c'est facile de se faire désillusionner.
Ouais.
Parce que, veux pas, ça vient un peu de partout à un moment donné. Et puis, mais les gens qui partagent pas notre passion, ils ont leur passion, eux autres aussi. Alors, ça, c'est dans d'autres choses. Je pense que c'est juste d'apprendre à avoir l'équilibre entre les deux, puis dire, bon, lui, il n'a pas la même passion, puis de pas nécessairement aller chercher, l'amener au même niveau que nous, on est, mais d'accepter. Puis pourquoi il est là, puis comment, moi, je peux me... je peux réussir, comment je peux grandir, puis comment cette personne-là peut grandir dans son monde à lui, puis qu'on se côtoie, simplement.
Mm-hmm.
Mais j'aime mieux avoir quelqu'un qui... C'est sûr que j'aime mieux avoir des gens autour de moi qui sont passionnés. Puis ils peuvent être passionnés par d'autres choses que parce que ce que moi je fais, tout à fait.
C'est là l'idée de revenir avec un caractère ou un...
Oui.
Ou une attitude, personnalité. Une attitude face aux choses, comment s'engager dans les choses, s'engager à 100% ou à 150% plutôt que je vais la faire un petit peu. Puis il y a des gens souvent qui vont avoir cette attitude-là face aux activités qu'on va leur proposer, aux tâches qu'on va leur proposer, qui vont tout de suite s'y mettre complètement avec une énergie forte.
Et rapidement, en terminant, parce que là tu viens de nommer le mot attitude, avoir une attitude passionnée envers la vie. Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose dans l'aspect très dichotomique de base de l'idée?
Bien, je pense que c'est une bonne chose. Si on n'est pas passionné par la vie, on voit les gens qui n'ont pas de passion, qui sont non passionnés, ils vont pas bien.
C'est malheureux, mais...
Et en fait, ils vont pas bien. Ils vont aussi pas bien que nos passionnés obsessifs qu'on parlait, en fait. Hein. Les conséquences, des fois, sont les mêmes. Alors, on va retrouver des symptômes psychologiques, des problèmes de santé mentale aussi dans la non-passion. C'est quelque chose qui nous allume à avoir une passion dans une vie.
Hein. Mm-hmm. Donc, c'est souhaitable, Eric.
Oui, j'attendais ta réponse. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Vraiment.
Donnez-lui la passion, donnez-lui ce qui fait que quand tout est bidon, quelque chose reste vrai. Donnez-lui cette flamme qui ne s'éteint jamais, qui survit même aux drames les plus longs, les plus laids. Donnez-lui la passion avant de m'inviter dans votre grande maison, dans votre éternité. Ce sera sa bouée, son instinct de survie quand j'irai vous retrouver dans votre paradis. Donnez-lui la passion, creusez-lui l'appétit pour qu'elle ait des raisons de mordre dans sa vie. Si vous prenez la mienne, donnez-lui au moins ça pour soulager sa peine, pour remplacer ma voix quand ma jeune malheureuse cherchera le sommeil, que chanterait sa berceuse du haut de votre soleil. Donnez-lui la passion pour qu'elle tende l'oreille, qu'elle entende ma chanson et qu'elle s'en émerveille. Donnez-lui la passion pour qu'elle s'y accroche. Si le monde est trop con, si la vie est trop moche, donnez-lui la passion qui transporte, qui lui fera comme un pont au-dessus.
au-dessus de sa mère morte. Si je m'en vais si tôt, je la verrai pas grandir. Donnez-lui ce cadeau qui l'empêchera de mourir. Je voudrais pas qu'elle s'ennuie, je voudrais pas qu'elle m'en veuille. Elle a le cœur trop petit pour porter mon gros deuil. Donnez-lui la passion pour qu'elle ait le cœur gros, puis la permission d'éclater en sanglots. Donnez-lui la passion pour qu'elle ait du courage, pour qu'elle ait une mission, ce sera mon héritage. Donnez-lui cette richesse et je promets de ne pas gêner, même s'il faut que je la laisse pour aller vous rejoindre. Ne me faites pas faux bon, c'est tout ce que je vous demande. Donnez-lui la passion pour qu'elle devienne grande. Je ne veux pas m'en aller, je veux vieillir avec elle. Si vous décidez de me piéger dans votre ciel, qu'est-ce que vous voudriez que je fasse de mes ailes? Si elle peut pas voler, ma petite hirondelle. Si jamais je déménage sans l'avertir avant, que je pars en coup de vent vers votre grand nuage, que je pars pour de bon et que je l'abandonne. Donnez-lui la passion et faites qu'elle me pardonne.
Éric Pelletier, la firme Lemay, de laquelle tu es associé, fête ses 60 ans cette année. On peut, entre autres, passer voir le projet de rénovation, du Grand Théâtre de Québec et poursuivre tous vos projets. On se rend sur le www.lemay.com. Merci beaucoup d'avoir été là. Frédéric Philippe, le laboratoire Élaboré regorge toujours de nouvelles idées et d'études en cours. Et pour en savoir plus sur vos activités, on se rend toujours sur le www.élaboré.org. Merci Jean-Sébastien à la régie, Catherine Bourderon à la recherche. Merci tout le monde. À la semaine prochaine.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.